Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cinquième et avant-dernier épisode d'Au cœur de l'Euro. Je suis votre hôte Vincent Gianjopi, en direct de Florence. Après l'épisode d'aujourd'hui, on aura officiellement couvert les 50 premiers matchs de cette édition 2024 de l'Euro. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Il n'en reste qu'un seul. En effet, on a pu assister dans les derniers jours aux matchs de quart de finale, puis de demi-finale. On connaît donc maintenant nos deux finalistes parmi les 24 équipes qui ont participé à cette compétition. Au cours de la prochaine vingtaine de minutes, on va repasser sur les quarts de finale et les demi-finales, et on va terminer avec une petite prédiction en vue de cette finale qui se tiendra à Berlin le 14 juillet prochain. Sans plus tarder, c'est parti! Débutons avec les quarts de finale et un duel de titans entre l'Espagne et l'Allemagne. Probablement les deux équipes les plus convaincantes depuis le début de la compétition, plusieurs étaient assez déçus de les voir se rencontrer seulement en quart de finale. En fait, on aurait même pu considérer ce match comme une genre de finale avant la finale. Dans le dernier épisode, je vous avais dit que c'était le match des quarts de finale à ne pas manquer, et vous pouvez être sûr qu'il n'a pas déçu. L'Espagne s'alignait dans son 4-3-3 habituel, avec un 11 partant auquel on commence à être habitué. Par contre, à la 8e minute de jeu, le jeune milieu de terrain Pedri va rentrer en collision avec Toni Kroos et devra sortir sur blessure, remplacé par le milieu du RB Leipzig, Dani Olmo. Du côté de l'Allemagne, Julian Nagelsmann avait effectué quelques choix plutôt intéressants pour sa formation. Emre Can au milieu de terrain plutôt que Robert Andrich, Leroy Sané sur la droite de l'attaque à la place de ramener Florian Wirtz dans l'alignement partant, et finalement persister avec Kai Havertz en pointe plutôt que de faire débuter Niklas Füllkrug. Dès le début du match, on voyait tout de suite qu'on allait être gâté avec du très beau jeu. En fait, on a pu distinguer une particularité très intéressante dans le style de jeu des deux équipes. L'Espagne, qui est historiquement reconnue pour son jeu de possession lent et patient, optait plutôt pour une stratégie de grosse pression et de contre-attaque rapide. Et l'Allemagne, qui est historiquement reconnue pour sa grosse pression et ses contre-attaques rapides, optait plutôt pour une stratégie de jeu de possession lent et patient. C'était vraiment le monde à l'envers. Les deux équipes vont terminer la première mi-temps sur un score de parité, mais ça promettait grandement pour la deuxième mi-temps. Et quelques minutes à peine au retour des vestiaires, ben c'est l'Espagne qui va ouvrir la marque. C'est Lamine Yamal, encore lui, qui va faire du très bon boulot sur son aile droite avant de trouver le remplaçant de Pedri, Dani Olmo, à l'entrée de la surface. Sa frappe base va battre Manuel Neuer et va faire exploser de joie les partisans espagnols qui avaient fait le déplacement jusqu'à Stuttgart. Alors que l'Espagne avait démontré une sérénité dans leur jeu tout le long du tournoi, on va la voir reculer énormément après ce premier but, voire trop reculer. L'Allemagne va monter en force et va multiplier les attaques jusqu'à temps qu'elle obtienne ce qu'elle cherchait, un but égalisateur. Celui-ci va venir à la 89e minute, lorsque le remplaçant Florian Wirtz va reprendre une tête en retrait de Joshua Kimmich. Son tir à bout portant ne laissera aucune chance à Unai Simon et la défense espagnole. Le score est donc de 1-1. Place à la prolongation. L'Espagne va reprendre un peu de sang-froid et commencer la prolongation en force, mais l'Allemagne va répliquer elle aussi avec de bonnes attaques. À la 107e minute de jeu, le tir de Jamal Musiala va visiblement toucher la main du défenseur espagnol Marc Cucurella. Malgré d'incessantes demandes pour un penalty, celui-ci ne sera pas donné. Possiblement car la main de Cucurella était sur le bord de son corps ou parce qu'un joueur allemand se trouvait en position de hors-jeu sur la séquence. Et finalement, à la 119e minute, ben c'est l'Espagne qui va porter le coup de grâce. Dani Olmo, encore lui, va délivrer un superbe centre pour le milieu de terrain rentré en cours de match, Mikel Merino. Ce dernier va trouver le fond du filet grâce à une incroyable tête à la suite d'un saut extrêmement acrobatique. Un geste de classe mondiale qui va permettre à une équipe de classe mondiale de se qualifier pour les demi-finales. C'est donc ainsi que le tournoi du pays hôte se termine. Il s'agissait d'ailleurs du dernier match de la carrière du légendaire milieu Toni Kroos. Et même s'il ne tire probablement pas sa révérence de la manière escomptée, il pourra se réconforter avec ses 6 titres de Ligue des Champions et son titre de champion du monde avec l'Allemagne en 2014. Deuxième match de la soirée du 5 juillet, un France-Portugal. Comme on avait dit dans notre prédiction du dernier épisode, c'est une confrontation qui semblait extrêmement alléchante sur papier. Par contre, si on a regardé les derniers matchs de ces deux équipes sur 7 euros, il y avait de quoi être sceptique quant à la qualité de jeu. Le Portugal s'alignait avec exactement le même 11 qu'en 8e de finale, où il avait difficilement vaincu la Slovénie en pénalty. Du côté de la France, Didier Deschamps avait opté pour un système avec deux attaquants, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, qui étaient récompensés pour sa belle entrée en huitième de finale, et Antoine Griezmann qui jouait dans un rôle de milieu avancé, alors que Adrien Rabiot, suspendu, était remplacé par Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Pour être sincère, ce fut assez difficile de passer d'un Espagne-Allemagne de très grande qualité à ce match. On a eu droit à deux équipes dont les attaques manquaient énormément de mordant et dont les défenses étaient extrêmement hermétiques. Résultat, à peu près rien à reporter pour la première heure de jeu. Le match a fini par s'ouvrir un peu avec de bonnes chances de Bruno Fernandes et Vitinha pour le Portugal, ainsi que Kolo Muani et Ousmane Dembélé qui a fait une très bonne entrée pour la France, mais les gardiens Mike Maignan et Diogo Costa ont été intraitables. Ça a aussi été un match marqué par les performances décevantes des deux capitaines. Encore une fois pour le Portugal, Cristiano Ronaldo a eu beaucoup de difficultés à suivre le rythme, incapable de remporter des duels physiques ou aériens, incapable de prendre la profondeur, de réceptionner de trop longues passes ou même de convertir des chances relativement simples. Pour la France, Kylian Mbappé a semblé être particulièrement dérangé par son masque, qui on se souvient il porte en raison de la fracture au nez qu'il a subie lors du premier match de l'Euro. Il a été très bien géré par la défense portugaise et a même demandé lui-même à être remplacé au cours de la prolongation. Les pénalités seront donc nécessaires pour déterminer qui affrontera l'Espagne en demi-finale. Petit choix étrange lors du tirage au sort pour déterminer qui va commencer à tirer. Le Portugal va remporter le tirage, mais Ronaldo va préférer laisser la France tirer en première. C'est une décision qu'on ne voit à peu près jamais, avec plusieurs statistiques qui indiquent que tirer en premier est beaucoup plus avantageux lors d'une séance de pénalty. On se souvient que le gardien portugais, Diogo Costa, avait stoppé les trois pénalties de la Slovénie en huitième de finale. On aurait donc pu s'attendre à une autre prestation héroïque de sa part, mais finalement, aucun des deux gardiens n'effectuera d'arrêt lors de cette séance. Les cinq Français vont tous convertir leurs pénalties de manière très convaincante, alors que du côté du Portugal, c'est l'attaquant remplaçant João Félix qui va trouver le poteau et du même coup mettre fin au tournoi de son équipe. La France, malgré n'avoir toujours pas marqué de but autre qu'un pénalty et deux buts contre son camp, se retrouve donc dans le corridor de cet Euro. Et quant au Portugal, il y aura certainement des discussions à avoir par rapport à Cristiano Ronaldo, qui, malgré son statut de légende dans le monde du foot, semble aujourd'hui davantage nuire à sa sélection que contribuer à son succès. Samedi le 6 juillet, on avait droit aux deux matchs de quart de finale dans la seconde partie du tableau. Le premier match de la soirée, un Angleterre-Suisse extrêmement attendu. J'étais d'ailleurs dans la fan zone à Lausanne en Suisse, entouré de partisans de la Suisse évidemment pour ce match, une superbe expérience de mon séjour. La Suisse de Murat Yakin, qui avait jusqu'à date été l'une des équipes les plus séduisantes de tout le tournoi et qui n'avait fait qu'une bouchée de l'Italie en huitième de finale, elle s'alignait dans une formation plutôt attendue, avec notamment Manuel Akanji à la défense, Granit Xhaka au milieu de terrain et Brille Mbolo en pointe. L'Angleterre de Gareth Southgate, dont le tournoi n'avait toujours pas convaincu malgré tout le talent à sa disposition, reconduisait un 11 très similaire au match précédent, mais avec un changement tactique majeur. À la place de s'aligner dans un 4-2-3-1, comme lors des autres matchs, les Anglais passaient plutôt à un système à 3 défenseurs, soit un 3-4-2-1. Cela résultait notamment en le déplacement de l'ailier Bukayo Saka vers la position de piston droit. Et l'un des meilleurs joueurs de l'Angleterre sur cet Euro, le défenseur Mark Guéhi, était suspendu pour ce match et se faisait remplacer par le défenseur d'Aston Villa, Ezri Konsa. Un peu comme France-Portugal, ce fut un match qui a pris du temps avant de s'activer. Puis, à la 75e minute, l'attaquant suisse Dan Endoy va réaliser du bon travail sur son flanc droit avant de donner une passe à rater qui va trouver son coéquipier Brille Mbolo, qui va conclure en glissant dans une cage vide. La Suisse n'était donc qu'à 15 minutes d'accéder à la première demi-finale de son histoire. Par contre, cette Angleterre si particulière a encore trouvé un moyen de revenir dans ce match. À peine 5 minutes après l'ouverture du score de Mbolo, c'est Bukayo Saka qui va couper sur son pied gauche à partir de l'aile droite avant de décocher une frappe vive qui va trouver le petit filet de Yann Sommer. Et comme par surprise, on est à nouveau à égalité. Après une prolongation plutôt contrôlée de part et d'autre, sauf qu'à la 117e minute, la légende suisse Xherdan Shaqiri va tenter l'improbable et de marquer directement d'un corner. Sa frappe va malheureusement toucher le montant, mais va sans doute donner une bonne frousse aux Anglais. On s'en va donc à nouveau en pénalty pour déterminer un vainqueur. La séance va très mal commencer pour les Suisses, avec leur défenseur Manuel Akanji qui va voir son tir facilement stoppé par Jordan Pickford. Puis, les tireurs anglais vont se charger du reste. Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney et Trent Alexander-Arnold vont tous convertir pour donner la victoire à l'Angleterre. Après le match, un artefact très inattendu va faire parler sur les médias sociaux, la bouteille d'eau de Jordan Pickford, sur laquelle il est indiqué où allait plonger chaque tireur suisse, incluant des instructions lui disant de plonger à gauche pour Manuel Akanji. Il faut donc croire que les Anglais ont bien fait leurs recherches en vue d'une potentielle séance de pénalty. Pour la Suisse, un superbe tournoi de leur part et une sélection bien mélangée entre la jeunesse et l'expérience ne peut être que bon signe en vue de la Coupe du Monde 2026. De retour à l'avant-dernier épisode d'Au cœur de l'Euro. Alors avant la pause, on a couvert les 4 matchs de quart de finale. On a donc mis la table pour ces 2 matchs de demi-finale en commençant par Espagne-France. On se souvient bien que l'Espagne a défait le pays hôte, la puissante Allemagne, au bout des prolongations sur la marque de 2-1 en quart de finale. La France a pour sa part défait le Portugal dans un match très peu excitant qui s'est terminé 0-0, mais sur le score de 5-3 pour les Français au tir au but. L'Espagne, désormais favorite des bookmakers pour la victoire finale, arrivait tout de même dans ce match avec quelques absents. D'abord, on se souvient que le milieu de terrain Pedri était sorti sur blessure après à peine 8 minutes de jeu face à l'Allemagne, et bien son tournoi est terminé. Il était donc remplacé dans le 11 par Dani Olmo, qui avait somme toute grandement aidé à la victoire de l'Espagne en quart de finale grâce à un but et une passe. Ensuite, l'entraîneur Luis de la Fuente se retrouvait contraint de remodeler le côté droit de sa défense puisque les défenseurs Robin Lenormand et Dani Carvajal étaient suspendus. Ils étaient donc remplacés respectivement par Nacho Fernandez et Jesus Navas. Navas, d'ailleurs, âgé de 38 ans, se retrouvait donc avec la tâche assez ingrate de marquer Kylian Mbappé, qui avait décidé de jouer cette demi-finale sans son masque. Chez les Français, Adrien Rabiot, revenu de suspension, prenait la place d'Eduardo Camavinga au milieu de terrain, et Antoine Griezmann, pour sa part, dont le tournoi était pour le moins décevant à date, était laissé de côté à la place d'Ousmane Dembélé. Le match a débuté sur les chapeaux de roue, avec le duel Navas-Mbappé faisant déjà des siennes. Navas va trop laisser d'espace à Mbappé sur l'aile gauche, qui va envoyer un superbe centre flottant dans la surface espagnole, et c'est Randal Kolo Muani qui va surgir au deuxième poteau et convertir de la tête après à peine 9 minutes de jeu. La France marque donc son premier vrai but, si on peut l'appeler comme ça, de l'Euro 2024, et prend les devants face à la puissante Espagne. Face à la défense française qui n'avait toujours pas accordé de but en jeu ouvert de toute la compétition, on était donc en droit de se demander si l'Espagne allait être en mesure de revenir dans ce match. La réponse est venue à peine 10 minutes de jeu plus tard de la part de qui d'autre que Lamine Yamal, 16 ans. Je le répète encore, là, 16 ans ce jeune homme. Environ une trentaine de mètres du but français, il va décocher une fusée qui va trouver le poteau rentrant à la droite du gardien Mike Maignan et ramener tout le monde à égalité. Et avec ce candidat pour but du tournoi, Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Et à peine 5 minutes plus tard, le ciel va complètement tomber sur la tête des Français. C'est Dani Olmo qui va réaliser un joli numéro de soliste dans la surface adverse avant de décocher une frappe croisée qui va déjouer Maignan et être reconduite dans son propre but par le défenseur Jules Koundé. Le but sera finalement accordé à Olmo puisque sa frappe était cadrée à la base. Mais dans tous les cas, l'Espagne a renversé la vapeur et mène désormais 2-1. En deuxième mi-temps, l'Espagne va continuer à briller, mais cette fois-ci par sa gestion de match. Aidée par le fait que cette équipe française mettait très peu de pression sur le porteur du ballon, La Roja va se contenter de faire circuler le ballon de brillante façon afin de tuer le temps. Chez la France, l'entrée de Bradley Barcola sur la gauche de l'attaque et le recentrement de Kylian Mbappé leur fera grandement du bien. Ils seront d'ailleurs en mesure de se procurer quelques occasions en fin de match, dont une en particulier. Mbappé va arriver sur la gauche devant le défenseur remplaçant Dani Vivian, va lui servir un superbe crochet et va armer sa frappe. C'est un geste très typique de la part de Mbappé et qui habituellement se retrouve au fond du filet, sauf que cette fois-ci son tir va passer bien au-dessus du filet. C'est donc comme ça que l'Espagne va être la première équipe à se qualifier pour cette finale d'Euro 2024 grâce à une belle victoire contrôlée de 2-1 face à la France. Et c'est le lendemain de ce premier match de demi-finale que l'on apprendra qui affrontera l'Espagne en finale dans cette confrontation Angleterre-Pays-Bas. L'Angleterre se présentait avec exactement le même 11 que face à la Suisse, l'exception de Mark Guéhi qui était de retour après sa suspension. À peu près la même chose pour les Néerlandais, avec le seul changement étant Daniel Malen sur l'aile droite à la place de Steven Bergwijn. Tout comme la première demi-finale, cela n'a pris que quelques minutes à peine avant que l'une des deux équipes brise la glace. Le milieu offensif néerlandais Xavi Simons va habilement gagner son duel face à Declan Rice au milieu de terrain, va avancer avec le ballon avant de décocher un missile de l'extérieur de la surface, et tout ça en glissant par terre. Malgré la puissance de la frappe, il s'agit probablement d'un tir que Jordan Pickford aimerait revoir puisqu'il était relativement central au but. Ça veut donc dire que pour un troisième match consécutif, l'Angleterre encaisse le premier but. Pas très rassurant tout ça de leur côté. Mais tout comme la première demi-finale, l'équipe tirant au score va créer l'égalité à peine 10 minutes après avoir concédé. Alors qu'il décoche une frappe, le capitaine anglais Harry Kane se fera botter le pied par le défenseur Denzel Dumfries. Résultat après visionnement de l'arbitrage vidéo, pénalty pour l'Angleterre. Harry Kane, qui est l'un des meilleurs tireurs de pénalty au monde, va parfaitement placer sa frappe dans le petit filet droit de Bart Verbruggen. On revient donc à 1-1. Alors qu'on pourrait s'attendre à une avalanche de buts, compte tenu du début de match enflammé auquel on vient d'assister, ben les deux équipes vont grandement baisser la cadence. En fait, pour une très bonne partie du match, on va tout simplement voir l'Angleterre qui fait circuler le ballon sans grande menace offensive et des contre-attaques occasionnelles des Pays-Bas lorsqu'ils reprennent possession. Au même titre que les autres matchs de l'Angleterre, ce ne sera pas un 90 minutes particulièrement excitant. Par contre, cette équipe va tout de même trouver le moyen de l'emporter. À la 81e minute de jeu, Gareth Southgate va procéder à un double changement offensif. C'est donc Harry Kane et Phil Foden qui sortent et qui seront remplacés par le milieu offensif Cole Palmer et le buteur Ollie Watkins. Puis, dans le temps additionnel, c'est Palmer qui va lancer Watkins dans la profondeur. Watkins va être dos au but avec le défenseur Stéphane De Vrij entre lui et la cage de Verbruggen. L'attaquant d'Aston Villa, qui n'avait pas encore joué la moindre minute pour l'Angleterre avant cet Euro, va parvenir à se retourner et conclure d'une magnifique frappe croisée. Contre toute attente et avec toute la misère du monde, l'Angleterre va donc l'emporter 2-1 et va céduler son rendez-vous du 14 juillet prochain à Berlin face à l'Espagne. Alors on y est. Après un mois de compétition et 50 matchs joués, on est à quelques jours à peine de la finale de l'Euro 2024, Espagne-Angleterre. Alors, qui va gagner? Faisons donc un petit topo de chaque équipe et essayons ensuite de faire une petite prédiction. D'abord, la puissante Espagne, qui a remporté tous ses matchs de la compétition, la meilleure attaque et la meilleure défense en moyenne par match, une équipe extrêmement bien huilée qui combine expérience et jeunesse. Elle a une défense qui donne pleine satisfaction, un milieu de terrain auquel il est quasi impossible de prendre le ballon et une attaque dévastatrice avec deux petites starlettes sur les ailes. Et ensuite, on a l'Angleterre. Elle non plus qui n'a pas perdu de match, mais qui a égalisé la moitié d'entre eux. C'est une équipe bourrée de talents individuels, mais dont les tactiques ne permettent pas de maximiser le potentiel. Le changement de formation en quart de finale a aidé un peu, mais c'est bien loin d'être parfait encore. Si l'on compare le parcours des deux équipes, il est évident que celui de l'Espagne, sur la qualité intrinsèque, fut bien plus difficile que celui de l'Angleterre. Sortir du groupe de la mort avec 3 victoires, vaincre le pays hôte ainsi que la France, il est évident que l'Espagne n'a pas volé son billet pour la finale. L'Angleterre a pour sa part eu bien la difficulté à sortir d'un groupe qu'elle aurait pourtant dû dominer. Et encore une fois, sur la qualité intrinsèque, l'Angleterre n'a pas vraiment affronté d'adversaire à sa taille jusqu'en demi-finale. Et pourtant, elle est bien en finale. Si je devais parier un petit 5$ sur cette finale, j'irais sans aucun doute pour l'Espagne, et même en 90 minutes. Par contre, je trouve qu'il y a une tendance un peu irrationnelle qui peut ressortir des finales d'Euro. On peut penser à la Grèce en 2004, le Portugal en 2016 et même l'Italie en 2021. Des équipes qui ne convainquent pas particulièrement lors du tournoi, mais qui trouvent tout de même le moyen de l'emporter. Je crois que juste en disant ça, vous voyez déjà où je m'en vais. L'Angleterre, perdante de la dernière finale de l'Euro en pénalty, a la chance de réécrire l'histoire. La plupart des joueurs de cette équipe étaient là en 2021 et seront déterminés à ne pas revivre cette douleur. Je suis peut-être idéaliste, mais je vois un scénario digne d'un film où l'Espagne prend les devants, l'Angleterre égalise grâce à un but un peu sorti de nulle part et on se rend en pénalty. Les Anglais nous ont démontré face aux Suisses qu'ils étaient définitivement prêts à une potentielle séance de tir au but. Et si la finale se rend jusque-là, je vois les Trois Lions remporter leur premier tournoi majeur depuis la Coupe du Monde de 1966. Et la cerise sur le sundae, un certain Bukayo Saka, qui avait raté son pénalty décisif en 2021, va se reprendre et donner la victoire à son équipe. Je dois mentionner par contre qu'une séance de tir au but est vraiment le seul scénario où je vois les Anglais gagner. Dans les cas où le match se termine en 90 ou 120 minutes, je crois tout de même que la Roja aura le dessus. C'est donc sur cette prédiction très peu rationnelle que se conclut ce cinquième et avant-dernier épisode d'Au cœur de l'Euro. Ça commence à sentir la fin. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Et pour le dernier épisode, qui devrait sortir le 15 ou le 16 juillet prochain, on reviendra évidemment sur cette fameuse finale et on va constituer notre propre 11 par excellence de cet Euro 2024. Ce sera une finale à ne pas manquer. Sur ce, ici Vincent Gengepi qui vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin d'Euro et on se dit à la prochaine. Ciao!